Alors, je voulais réfléchir un peu sur les symptômes et sur les difficultés qui nous animent. Et ce qui me semble, c'est qu'on est tous bâtis sur un mode conflictuel. C'est-à-dire, en fait, on est bâti comme ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Et ce conflit interne qui nous habite plus ou moins, et qui par moments est très fort, est à l'origine des symptômes et à l'origine de nos souffrances. On pourrait dire que pratiquement tous les symptômes sont des signes d'un conflit. Même un symptôme physique, vous êtes malade, vous avez la grippe, c'est un conflit. C'est un conflit entre vos mécanismes de défense protecteurs et un virus ou une bactérie. Mais d'une façon plus générale, les symptômes, peut-être vous pouvez retenir ça comme idée, c'est que le symptôme, c'est le signe d'un conflit. Alors, quel conflit? Quels sont les conflits principaux sur lesquels on a besoin de se pencher? Ben, je crois qu'il y en a trois ou quatre. Il y a le conflit avec les parties traumatisées, il y a le conflit avec les subpersonnalités reniées et aussi avec ce dont elles sont porteuses de pulsions, et il y a le conflit à propos des identifications dont on est porteur et qui sont en fait pas vraiment nous-mêmes. Alors je vais reprendre chacun de ces éléments. Les parties traumatisées. Ça veut dire qu'à un certain moment donné dans notre développement, on a rencontré quelque chose qui était trop difficile à vivre, qui nous a perturbés, qu'on n'était pas capable de gérer parce que c'était trop violent ou parce que notre psychisme n'était pas assez élaboré à ce moment-là. Et donc il y a eu quelque chose qui nous a tellement perturbés, tellement fait peur, tellement violentés, que du coup, on n'a pas été capable d'y faire face et de le régler. Et on a trouvé comme solution de l'enfouir, de le mettre dans un placard, de fermer un placard. Vous êtes confronté à un monstre et vous réussissez à le fermer dans un placard. Eh bien, c'est enfoui parce que c'est trop difficile à vivre. Mais même si vous ne vous en souvenez plus, par exemple, mettons, j'ai été abusé quand j'avais 5-6 ans, j'en ai plus le souvenir. Plus tard, je le retrouverai ou ma sœur me racontera que ça s'est passé ou je ne sais quoi. Même si vous en souvenez plus, c'est-à-dire que si la visualisation, la représentation de cette situation traumatique a été oubliée ou est disparue du paysage, les affects dont elle est porteuse, cette situation, continuent à vous habiter. C'est-à-dire qu'il y a quand même la peur, la terreur, la fragilité, la menace, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui est encore porteur de ce traumatisme, sauf qu'on ne sait plus vraiment où il est. Mais ça pousse à la fois au point de vue émotionnel, il y a des affects bizarres qui me prennent, par moments, je ne sais pas pourquoi, j'ai si, c'est ça, j'ai peur, ou je me sens rien du tout, ou etc. Et pourquoi ça pousse? C'est aussi parce que ce qu'on appelle la compulsion de répétition, c'est-à-dire que c'est un peu comme si cette partie traumatisée, enfermée dans le placard, voulait ressortir. Et cette fois-ci, être terminé autrement, un peu comme si le traumatisme cherchait à se revivre pour pouvoir être enfin terminé. Et alors le paradoxe, c'est le suivant, c'est que du coup, comme il y a une partie de nous qui veut revivre le traumatisme, eh bien, elle va nous remettre dans des situations traumatiques similaires à celles de l'enfance. Alors, je vous donne un exemple. Donc, un enfant qui a été une enfant ou un enfant qui a été abusé par des adultes, va à l'âge adulte, inconsciemment et sans avoir ce choix volontaire, se remettre dans des situations avec des gens qui vont abuser d'elle. Pas forcément abuser sexuellement, mais abuser d'elle, c'est-à-dire comme si je n'avais pas pu établir des frontières saines à l'époque, je ne pouvais pas poser des frontières par rapport à certains types de comportements de personnes qui viennent dans mon territoire et qui viennent abuser de moi. Et donc, quelque part, c'est un peu comme si ce que j'ai vécu et que j'ai oublié, je me remettais dans des situations qui vont me les faire revivre. Inconsciemment, avec le désir que cette fois-ci, ça se termine autrement. Que cette fois-ci, l'adulte avec qui je suis, le compagnon ou le patron ou n'importe qui, ne se comporte pas de la manière dont j'ai été traumatisé initialement. Sauf que, très souvent, ça se reproduit. Donc, par rapport à un traumatisme, on a trois types de comportements. Soit la répétition, c'est-à-dire finalement, il m'arrive toujours la même chose, Partout où je vais, partout on se fout de moi, partout on m'abuse, partout on m'utilise, partout je ne sais quoi. Hein, ça dépend du type de schéma, la répétition. Et je cherche désespérément à en sortir. En fait, je cherche à en sortir sans y arriver, pour la raison simple que c'est quelque chose d'autre en moi qui veut que ça se répète pour être enfin terminé. Ça, c'est une des options. Une autre option, c'est d'en prendre le contre-pied. Par exemple, j'ai eu une patiente qui avait été abusée par un voisin qui lui a imposé une fellation quand elle avait 7-8 ans. Les parents n'ont pas voulu reconnaître ça, donc elle est restée avec ça, elle l'a enfouie, elle l'a oubliée. Eh bien, elle a passé sa vie entière célibataire, fermée chez elle, pas de relation, pas de sexualité. Bon, un travail, heureusement, elle avait un travail d'infirmière, mais donc c'est un peu comme si elle avait pris tellement le contre-pied que du coup, toute sa vie en avait été marquée. Donc, soit la répétition, par exemple, très souvent, on sait que les femmes prostituées sont très souvent des enfants qui ont été abusés, et que c'est comme si elles se remettaient en situation d'être utilisées par l'autre. Ou inversement, prendre le contre-pied, être absolument tout bétonné pour que jamais ça se reproduise. Tout ça inconsciemment, évidemment. Parce qu'en l'occurrence, ma patiente, elle ne se rappelait pas avoir eu ça. C'est revenu petit à petit dans les rêves éveillés, etc. Donc, ou la répétition, ou la prise de contre-pied. Et le troisième axe possible, c'est essayer de faire disparaître la souffrance et le symptôme grâce à une addiction. Donc l'alcool, la drogue, mais n'importe quoi d'autre, l'addiction au jeu, l'addiction à tout ce qu'on veut, qui est une façon de ne pas être confronté aux affects qui émergent de moi et dont je ne sais pas d'où ils viennent, mais qui me submergent ou qui polluent la vie. Donc, un des conflits les plus fréquents chez nous tous, c'est le conflit avec les parties traumatisées. Et ce conflit se situe entre ce qui veut se revivre ou se terminer des traces traumatiques dont on est porteur et la majorité au pouvoir qui ne veut plus en entendre parler. Surtout pas. Donc, ça vous laisse tout de suite l'idée que si on réussissait à faire émerger la partie interdite et qu'on puisse s'en occuper et la soigner, eh bien, il y aurait énormément de changements dans le destin de la personne, dans sa façon d'être, dans sa façon de se voir, dans les relations avec les autres, etc., etc. Premier conflit entre la majorité au pouvoir et les parties traumatisées. Deuxième conflit, pour se structurer son identité, il a fallu sortir du flou et de la confusion. Au début, on pourrait être tout, et puis en fait, on choisit. On choisit un certain type de comportement qu'on appelle les subpersonnalités dominantes en termes de dialogue intérieur, qui sont, on va essayer de sortir du flou et de se déterminer qui je suis. Alors par exemple, vous voyez les enfants, surtout en période de latence, mettons entre 6 et 10 ans, ils aiment bien qu'on sache qui est le mauvais et qui est le bon. Qui sont les cow-boys et qui sont les Indiens, ou qui sont les extraterrestres destructeurs et qui sont les Men in Black. Bon. Bref, ils ont besoin d'avoir des repères forts en disant ça c'est du bon, ça c'est du mauvais, ça c'est des garçons, ça c'est des filles, ça c'est moi, ça c'est pas moi, etc. C'est nécessaire d'établir des frontières. Par exemple, entre le dedans et le dehors. Est-ce que ce que je pense, c'est à l'intérieur de moi? Ou bien est-ce que c'est une voix à l'extérieur, comme les schizophrènes qui entendent des voix? En fait, les voix qu'ils entendent, c'est qu'il y a un flou entre les pensées et l'extérieur. C'est-à-dire, ils ne savent pas différencier ce qui est le dedans et le dehors, ce qui est ma réalité interne et ce qui est la réalité externe. Donc, on a besoin de poser des frontières. Sinon, on n'y comprend plus rien, on devient fou. Mais le problème des frontières, et Dieu sait s'il va y en avoir à poser, c'est qu'après, elles enferment aussi les frontières. Donc, il y a une première frontière entre le dedans et le dehors, entre la réalité externe et la réalité interne, entre moi et les autres. Et toutes ces frontières-là sont utiles. Mais pour les créer, ça suppose de mettre l'accent prioritaire sur certains aspects de moi, sur certaines qualités, certains types de comportements, etc. Ça, c'est moi. Moi, je suis diplomate et subtil et jamais agressif. Moi, je suis plutôt mental, pas sportif, etc. Moi, je suis je ne sais quoi. Toutes les qualités que vous pourriez définir comme étant moi, elles ont été sélectionnées au détriment de ce qui n'est pas moi. C'est-à-dire, si je suis moi, quelqu'un de très doux et qui aménage les choses et qui trouve facilement une façon de faire avec les autres, eh ben je ne vais pas reconnaître facilement ma propre agressivité, par exemple. Je ne suis pas quelqu'un d'agressif. Si je suis, je ne sais pas moi, n'importe quoi, quelqu'un de joyeux, d'une façon générale, j'ai toujours le sourire, etc., je ne vais pas facilement reconnaître en moi la dépression, la tristesse, la douleur, etc. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que je me bâtis en sélectionnant un certain nombre de traits de caractère qui vont être moi. Mais ça suppose forcément que du coup, je sélectionne un certain nombre de traits de caractère qui vont être le contraire de moi. Conséquence positive, une fois que c'est bien établi, ben, j'ai une sécurité identitaire. Moi, je sais qui je suis, moi. Moi, c'est moi. Moi, voilà comment je suis, moi. Ça, c'est une sécurité identitaire. Du coup, je sais plus facilement comment orienter mon comportement. J'ai des repères stables. Je sais que moi, je suis comme ça et c'est ce que je vais faire. Et j'ai une espèce de cohérence de mon caractère. Ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais en même temps, c'est limitant. Et les conséquences négatives, c'est que du coup, toutes les parties de moi que j'ai reniées, ben, je suis en déficit des capacités dont elles sont porteuses. J'ai des choix de vie et des comportements qui sont limités, puisque je ne peux pas me permettre d'expérimenter tel ou tel autre type de comportement. J'ai une créativité qui est relativement bridée. C'est pas pour rien que les gens créatifs sont souvent un peu bizarroïdes par rapport à la norme et que socialement on les trouve un peu spéciaux, parce que justement, souvent, ils ont quelque chose de beaucoup plus complexe que. Là, moi non, j'ai une créativité, oui, dans le cadre de ce qui est moi, mais pas ailleurs. Et du coup, ma souplesse est relativement faible aussi, parce qu'elle est délimitée à l'intérieur du cadre, qui est le mien. Et ça donne une adaptabilité relativement restreinte. Il faut que ça corresponde à ce que je suis, sinon je ne peux pas facilement m'adapter. Ça a aussi comme conséquence que j'ai une certaine intolérance pour les gens qui sont porteurs des aspects que je refuse en moi. C'est-à-dire que je vais me battre contre eux, quoi. Ils sont, c'est pas normal de se comporter comme ça, etc. Parce que c'est le contraire de ce que moi j'ai choisi. Donc il y a une partie de moi qui rejette à l'extérieur et voit à l'extérieur encore plus ce que je ne veux pas voir en moi. Et si j'ai supprimé toute agressivité de mon expression interne, je vais non seulement trouver que les autres sont trop agressifs, mais en plus que le monde entier est vraiment trop agressif, c'est-à-dire que le monde entier est surchargé de l'agressivité que moi je ne veux pas voir, c'est ce qu'on appelle la projection. Autrement dit, je deviens aussi, forcément du fait de ma limitation identitaire, relativement intolérant. La projection, donc, je vois chez l'autre ce que je refuse de voir en moi et ça m'énerve, ça peut aussi me séduire d'ailleurs. Justement, ce que je déteste en moi peut me fasciner aussi chez l'autre. Mais du coup, ça fausse les relations avec les autres. En réalité, et là, vous aurez très souvent l'occasion de travailler là-dessus, c'est pas vraiment avec l'autre que je me bats, c'est pas vraiment l'autre que je dois faire changer. C'est contre la partie de moi que je projette sur l'autre et que je ne veux pas voir. Si je la vois à l'intérieur de moi, d'un seul coup, l'autre change. Si je vois que mon enfant, tellement bougeant, tellement insupportable, en réalité réveille en moi la partie de moi qui ne veut pas de ça, à ce moment-là, je peux plus facilement travailler à l'intérieur de moi et du coup, ça change quelque chose dans la relation. Donc, presque toujours, ce que vous allez avoir à travailler, c'est quand la personne est vraiment en colère ou séduite par quelqu'un d'autre, vous allez devoir travailler sur la partie d'elle qui est porteuse de ça. Le casseur de PD qui va les attendre au coin du bois pour leur casser la gueule parce que ça devrait pas exister, c'est dégueulasse, etc. Il va devoir découvrir qu'il a une homosexualité latente qui est strictement interdite et avec laquelle il va devoir faire. Et s'il fait avec, d'une part, il enrichit sa personnalité et d'autre part, il devient bien plus tolérant. Hein. Les autres, bon, ils font ce qu'ils veulent, après tout, pourquoi pas. Donc, pareil, pareil. Ben, si tu veux, tu projettes chez l'autre tout ce que tu ne veux pas voir chez toi. Donc, tout ce que tu n'aimes pas en toi, ben, c'est chez l'autre, quoi. Alors, pour peu que visiblement ça se voit qu'il y a une différence, c'est encore plus facile de projeter, si tu veux. Mais en même temps, c'est aussi lié à la moindre chose qui va te manifester, qu'il y a une vraie différence et que, en fait, tout ce que tu rejettes, c'est chez l'autre. Voilà, donc le conflit là, donc on avait parlé du conflit avec les parties traumatisées, là on a le conflit avec les parties reniées. C'est pas forcément traumatisé, c'est que j'ai choisi un certain type de caractère en développant mon identité, qui est d'ailleurs souvent liée à l'identité de la fratrie, mettons. Si mon frère avait développé telle capacité, c'est comme si cette capacité-là, elle est occupée par lui, et moi j'en développe une autre, parce que je ne peux pas faire la même chose. Encore plus si on est du même sexe et si on est assez proche au point de vue âge. Donc par exemple, ben, je vais me différencier. Je vais choisir de me caractériser sur quelque chose qui est un peu un hasard. Il se trouve que l'autre à ce moment-là occupait ce terrain-là, et moi je ne vais pas l'occuper. Mais le problème, c'est que cette partie reniée, elle peut être nécessaire dans certaines situations, et si justement je ne peux pas l'utiliser, eh bien je vais être en conflit interne, parce que la situation va stimuler la partie reniée de moi, et la partie majoritaire va être mal à l'aise avec ça, et va devenir angoissée, tendue, énervée, et elle va finir par basculer ça en symptômes. Donc, on a une difficulté avec les parties reniées. On a aussi une difficulté souvent avec le monde pulsionnel. La difficulté spécifique du monde pulsionnel, c'est-à-dire l'agressivité, la rage, la violence d'un côté, la sexualité, le désir un peu d'utiliser l'autre comme un objet pour notre service et notre plaisir, ce mode pulsionnel, hein, l'agressivité et la sexualité, c'est en même temps quelque chose dont on a besoin. C'est un moteur énergétique, c'est un peu comme si on était sur un cheval, sur un animal. C'est notre animal de puissance. Mais si on en a peur, si on doit absolument brider ça, on va mettre des tonnes de fonte sur le dos du cheval pour pas qu'il bouge, quoi, pour qu'il se mette à courir, à faire n'importe quoi, etc. Et ça va se manifester par le fait que l'animal que nous chevauchons, si on met trop de frein dessus, si on met trop de frein sur le mode pulsionnel qui est le nôtre, eh bien une espèce de perte vitale, avec un faible sentiment de vie, avec des maladies, avec des peurs, un peu comme s'il y avait quelque chose là qui est ratatiné, ralenti, etc. Pour à tout prix maintenir le monde pulsionnel sous contrôle, j'ai mis trop de contrôle et du coup, je finis par devenir peu vivant. Ça, c'est quand j'ai trop peur du monde pulsionnel, ça peut être aussi quand je suis trop débordé par lui et que je n'arrive pas à mettre des freins. Donc, ou je mets trop de freins, ou j'en mets pas assez. Si j'en mets pas assez, je passe à l'acte. Je vais casser la gueule du type avec qui je discute, je vais violer la nana que je trouve au coin d'une rue, etc. Le passage à l'acte, c'est au détriment de l'autre et finalement au détriment de son propre self. Parce que c'est comme si l'animal, qui est notre moteur vital, en même temps prenait tout le dessus, c'est lui qui dirige, quoi. Donc en fait, la solution humaine se situe dans la canalisation de ce monde pulsionnel. Ce qui n'est pas évident, quoi, hein. Parce que c'est un peu comme si tu avais un moteur, et puis voilà, il s'agit qu'il soit correctement utilisé, ni trop ni pas assez. Canaliser ce monde pulsionnel, ça se fait de deux manières, soit par ce qu'on appelle la sublimation, soit par la symbolisation. La sublimation, c'est je réalise le désir pulsionnel dont je suis porteur, mais à travers une forme socialement acceptable. Exemple, si j'ai envie de découper l'autre en morceaux à coups de couteau, Ça, c'est assez encombrant. Par contre, si je suis chirurgien, tout le monde me vénère, me donne de l'argent, je fais mon boulot. C'est la même pulsion, sauf qu'elle est canalisée dans une forme socialement acceptable. Et bien ça s'appelle la sublimation, c'est-à-dire on donne sa place à la pulsion, mais sans être débordé par elle d'une façon telle que ça donne des passages à l'acte. Une autre façon de faire avec le monde pulsionnel, c'est la symbolisation. C'est-à-dire de la représenter à travers des images, à travers des fantasmes, à travers des rêves, à travers des rêves éveillés. Les fantasmes, les jeux, des jeux sexuels, on peut jouer à se dominer, on peut jouer à être l'esclave et le maître, etc. Mais c'est un jeu. Et à partir du moment où c'est un jeu, à ce moment-là, ça devient socialement acceptable, même pour moi, quoi, et pour l'autre aussi. On est d'accord tous les deux pour le fait que ça soit symbolisé et non pas uniquement du passage à l'acte. Alors, la difficulté en ce qui concerne le monde pulsionnel, c'est que autant l'enfant, jusqu'à l'adolescence, il est démuni des moyens de tuer l'autre ou de violer l'autre, autant à l'adolescence, il pourrait l'être meurtrier ou il pourrait être violeur. Meurtrier, c'est très très canalisé par la société. C'est-à-dire qu'il y a tellement de freins que c'est quand même difficile d'être meurtrier facilement, quoi. D'assassiner les gens, c'est pas facile. Donc il y a une sorte de frein qui est favorisé par l'extérieur, ensuite intériorisé, comme quoi on va pas tuer les autres. Mais par contre, la difficulté spécifique, et c'est pour ça qu'il y a tellement de problématiques au niveau de la sexualité, les tueurs en série à base de trucs sexuels, etc. Par contre, ce qui est difficile, c'est que le passage dans l'acte de la pulsion sexuelle est non seulement autorisé, mais légitime et même attendu d'une certaine manière en tant qu'adolescent ou adulte. Donc il y a une frontière étroite entre passer à l'acte en faisant de l'autre un objet partiel qu'on utilise comme une serpillière, ou bien passer à l'acte dans une relation amoureuse dans laquelle on va intégrer l'acte sexuel. Donc je pense qu'il y a une sorte d'interdit sur la violence de l'acte meurtrier et que par contre, du fait même que l'adolescence et l'âge adulte supposent le passage à l'acte sexuel, il y a une ambiguïté délicate au niveau de la gestion du sexuel, qui est souvent un point sur lequel on est obligé de travailler. Donc le conflit, là, se situe entre le moi social et relationnel, c'est-à-dire je ne veux pas prendre l'autre comme un objet que j'utilise, mais au contraire, le respecter, créer des liens, etc. Donc le conflit se situe entre le moi social, on ne fait pas n'importe quoi, et relationnel. Si je veux avoir une vie amoureuse satisfaisante, il faut que je respecte l'autre. Et le ça pulsionnel, qui n'en a rien à foutre, quoi. Hein. Si je suis un tigre sauvage au fond de la forêt, je vais pas me casser le cul et quand il y a quelque chose qui vient et que j'ai besoin de croquer, je le croque. Donc il y a cette tension entre les deux parties et le moi est un peu coincé parce qu'il a quand même la nécessité d'intégrer une certaine force pulsionnelle et en même temps il doit la contrôler. Et par ailleurs, il est aussi surveillé par ce qu'on appelle le surmoi, c'est-à-dire tout un tas de valeurs issu de la structuration identitaire qui l'aide à se repérer. Donc on peut dire que le moi est assez en conflit sur ses frontières. Il va falloir à la fois qu'il fasse attention à ce que la frontière soit correcte vis-à-vis du pulsionnel et à la fois qu'il ne se laisse pas non plus totalement submerger par des normes insupportables. Donc conflit vis-à-vis des parties traumatisées, conflit vis-à-vis des subpersonnalités. Conflit éventuel, en tout cas gestion du pulsionnel. Et puis, alors, un des points les plus difficiles, c'est la question des identifications. Parce que pour me construire, il a fallu que j'aie un certain nombre d'identifications à mes parents, à la famille, aux normes, à quelque chose qui est chez nous, c'est comme ça, etc. Donc, je vais avoir une partie de mon propre moi qui, en réalité, est colonisée par l'extérieur. J'ai intégré à l'intérieur quelque chose qui auparavant était à l'extérieur. Je ressemble à mon père, je ressemble à ma mère, je ressemble à ma grande sœur, et ainsi de suite. Ces identifications font partie du moi, mais en fait sont l'autre en moi. Et comme c'est des identifications qui s'intonnent au moi, c'est-à-dire que je ne les différencie pas de moi, elles ne peuvent pas être facilement aperçues. C'est-à-dire que ce n'est pas facile d'apercevoir qu'est-ce qui est vraiment moi et qu'est-ce qui est hérité du transgénérationnel, de ci, de ça, de la terreur secrète ou de la culpabilité énorme que mon père a eue parce qu'il a fait la guerre et qu'il n'en parle jamais, mais qu'il a vécu des trucs genre torture et autres, et que ben moi j'en suis porteur sans le savoir. Enfin, il y a des tas de trucs qui sont à l'intérieur de nous, qu'on n'identifie pas comme n'étant pas nous, et qui pourtant sont l'autre en nous, quoi, quelque part. Or, c'est très difficile de repérer l'autre en moi sans un regard extérieur. À la limite, de toute façon, il y a certaines identifications dont on ne pourra jamais vraiment se débarrasser, parce que de toute façon, elles sont constituées, elles se sont tissées avec notre propre identité. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment problématiques. C'est par exemple l'identification à l'agresseur. Hein? Puisque, mettons, j'ai subi tel truc. Je pense à un exemple que j'avais entendu à la radio, d'un criminel qui avait frappé une femme, lui faisant éclater la tête contre le bord de sa baignoire. Et en fait, il a été avéré que dans son enfance, il avait subi ça. C'est-à-dire que son père lui avait fait taper la tête sur le bord de la baignoire, presque au point d'en mourir. Eh bien, l'identification à l'agresseur, c'est un gros avantage. C'est que si moi, j'agresse l'autre en lui faisant taper la tête contre la baignoire, je ne suis plus la pauvre chose complètement perturbée, ravagée, terrorisée, déçue, triste, amère, impuissante, que j'ai été au moment de la réalité. Donc l'identification à l'agresseur, c'est pas pour rien, c'est pour sortir de l'horreur d'être la victime. Mais le problème, c'est que du coup, je ne peux pas m'empêcher de me comporter comme on s'est comporté envers moi. Et pour peu qu'on se soit comporté envers moi d'une manière qui était vraiment traumatique ou violente, je vais être traumatisant ou violent vis-à-vis des autres.
C'est pas aussi pour pas être coupable ? Du coup, c'est pas moi, c'est...
Aussi, mais c'est surtout pour éviter le vécu d'être... Mais un peu aussi, parce que l'enfant se dit toujours que le comportement du parent, c'est à cause de lui. Mais c'est quand même secondaire par rapport à la violence des affects reçus en tant que victime. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais penser que c'est moi. Par moment, je suis pris par des pulsions. Faut que j'aille faire quelque chose d'extrêmement violent et d'interdit. Et je ne me reconnais pas. Et c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mr. Hyde qui sort la nuit et qui fait des trucs horribles que Dr. Jekyll n'aurait jamais fait, puisque lui, au contraire, il est très très bien. Les identifications à l'agresseur peuvent poser de véritables problèmes de passage à l'acte, tant que j'ai pas vu que ça, c'est pas moi. Ça, c'est quelque chose de mon histoire que j'ai intégré, mais quand je suis pris par ces pulsions-là, c'est pas moi. Je suis en train de vivre exactement ce que mon père vivait, ma mère vivait, mon grand-père a vécu, ou je ne sais quoi. Tant que je n'ai pas réussi à le voir et à circonscrire avec une frontière autour comme étant à l'intérieur de moi, mais pas moi, eh bien, je peux être possédé par ça. Et à ce moment-là, ça va donner un conflit entre moi comme je me vois d'habitude ou mon self tel qu'il veut se réaliser, et puis certains aspects de moi qui sont, je ne comprends même pas pourquoi c'est là, quoi. Et alors du coup, soit je suis possédé par certaines identifications à l'agresseur qui me perturbent terriblement parce qu'elles sont, je ne sais pas d'où ça vient, soit je suis tellement identifié à mon papa, ma maman, pas forcément identification à l'agresseur, hein, identifié, ils étaient très catholiques, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et moi aussi je suis comme ça, et d'ailleurs j'ai été baptisé telle date dans telle église, etc. Je peux être tellement identifié à ce qui m'a été transmis, que je crois que c'est moi, évidemment, mais que je finis par avoir une vie qui perd son sens, parce qu'à la limite, c'est comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Et le self est enfoui à ce moment-là, sous les multiples tendances identificatoires dont je suis porteur. Je vis un rôle. Un rôle qui n'est pas le mien, je suis un peu comme un pantin tenu par des ficelles, quoi. Et j'en meurs. Moi, je me rappelle d'un J'animais des groupes de parole d'infirmières et elle parlait d'un patient qui était mort du cancer. En fait, il avait toujours fait le clown toute sa vie durant et il a fait le clown jusqu'à sa mort. Sur son lit de mort, il déconnait encore, quoi. Ben, d'une certaine manière, il a toujours été dans son rôle. Alors bon, on est tous plus ou moins dans un rôle, mais là, c'était vraiment comme s'il était passé à côté de lui-même. À qui il ressemblait et qui est-ce qui le possédait à ce moment-là? On le voit des fois aussi, j'ai eu l'occasion d'avoir des patients comme ça. Quelquefois, on a le sentiment de ne pas vivre sa vie, peut-être parce qu'on ne la vit pas. Un patient qui avait eu un frère mort juste avant lui et qui avait hérité de son prénom et qui en fait était, sans le savoir, habité par le fantôme, c'est-à-dire un peu comme si il donnait vie à son frère à travers sa propre vie, mais que lui-même, il n'était pas là, quoi. C'est comme s'il vivait la vie de son frère. Et qu'il y avait plein de choses qui en découlaient dans son comportement, dans ses symptômes, dans ses difficultés de couple, etc. Possédé par le fantôme sans s'en rendre compte. Donc le conflit à ce moment-là, à propos des identifications, c'est entre ce que je crois être moi et mon propre self. Étouffé, quoi. Quelquefois, on parle en psychanalyse du faux self, c'est-à-dire masqué derrière ce qui soi-disant est moi et qui en réalité est un faux self. Donc,
Il le savait, le frère, qu'il est.
ah ben il savait que son frère était mort, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais il savait que son frère était mort, il savait que ses parents avaient été assez ravagés par ça, il savait qu'il avait le prénom du frère, etc. Mais ce qu'il savait pas, c'est que son frère, c'était lui qui le faisait vivre. Il était porteur du fantôme.
Et qu'est-ce qu'il avait comme symptôme alors?
D'abord, il ne se sentait pas vivant, ensuite des difficultés à s'affirmer comme homme, à s'affirmer dans sa vie. Il était très transparent, très peu vivant, quoi, quelque part. Il vivait en contrebande. Alors, eh ben notre boulot, que ce soit en TBSI ou que ce soit en psychanalyse, c'est d'aller au contact de la partie interdite, quoi. Que ce soit la partie traumatisée, la partie reniée, les identifications qui nous encombrent, les pulsions qui sont mal gérées, bref, de trouver comment faire avec ça. Alors pourquoi est-ce que ça se maintient, ces putains de conflits? Pourquoi est-ce qu'on continue à les avoir? Pourquoi est-ce qu'on souffre avec des tas de symptômes, etc.? Ben parce que on voit pas. On voit pas qu'on est compliqué. On voit pas qu'il y a une partie traumatique qui est enfouie et qui crie, qui hurle dans son placard. On le voit pas, on entend des cris, on sait pas d'où ils viennent, on entend des affects violents, mais on sait pas d'où ils viennent. On le voit pas. Donc la première chose, c'est voir. Le bouddhisme, par exemple, souligne que le principal problème de l'être humain, c'est un des points sur lesquels je suis d'accord, c'est l'ignorance. L'ignorance au sens que ben on sait pas quoi, on sait pas vraiment ce qu'on est en train de vivre et qui on est. Donc si je vois pas, ben je suis condamné à ressentir sans voir. Donc je ressens des trucs bizarres, je sais pas pourquoi, et ça fait une tension interne forte. Et comme cette tension interne forte, je ne sais pas quoi en faire, eh ben, je la bascule en symptômes. Alors, je vais avoir, je sais pas, n'importe quoi, un cancer du sein, une douleur chronique dans le dos, etc., etc. Notre corps, il est sympa, hein. C'est lui qui accepte de récolter le tout, quoi. Donc, quand ça va pas, ben, c'est lui qui récolte. Mais le problème, c'est que en mettant le symptôme quelque part, soit dans le corps, soit dans la relation, soit dans des troubles bizarres, les phobies, phobies d'araignée, etc., au hasard, eh bien, le problème, c'est qu'en le mettant là, c'est un peu comme si je l'avais éjecté de moi, le problème. Et que du coup, ben, il est cristallisé quelque part. Il est cristallisé dans un symptôme. Donc le symptôme, il a comme caractéristique, il a une caractéristique très ambiguë, c'est qu'à la fois il montre et il signifie qu'il y a un problème, sinon j'aurais pas de symptôme, et à la fois il draine l'attention du problème, il la draine en la fixant quelque part. Donc quelque part, mon symptôme, il crie, il y a quelque chose à voir, et il crie, C'est pas la peine de le voir puisque c'est moi qui le prends en charge.
Est-ce qu'il y a un lien symbolique avec le symptôme?
Alors, il y a un lien symbolique au début. Par exemple, vous avez entendu parler du décodage biologique ou des trucs comme ça. Il y a un lien symbolique au début, c'est-à-dire, tu ne veux pas dire quelque chose qui te reste en travers de la gorge, c'est vraiment insupportable, et tu prends des ganglions, t'as mal à la gorge, t'as un truc chronique au niveau de la gorge, etc. Bon, ça, c'est un lien symbolique. C'est-à-dire que c'est pas n'importe où que se pose le symptôme. Mais la difficulté, c'est qu'une fois que le corps il a trouvé un lieu de décharge, après, il va l'utiliser pour toute autre source. Un peu comme tu sais, les rivières, les fleuves qui ont creusé leur lit entre deux montagnes, après, d'où que vienne la pluie, ça va retomber là. Donc, autant au début, un symptôme qui commence à un lien symbolique, autant plus tard, ça n'a pas de lien. C'est-à-dire que, par exemple, une fois que j'ai développé un truc chronique au niveau de la gorge, etc., après, ça va pas être pour les mêmes raisons, ça va pas être parce que j'ai quelque chose qui me reste en travers de la gorge, ça va être parce qu'il y a eu de la tristesse pour telle chose et que je ne veux pas voir, ou pour autre chose. Autrement dit, vous entendrez les deux choses et les deux sont vraies. Vous entendrez certains qui écrivent en disant « le symptôme, ça a un sens, symbolique, etc. » Et puis vous entendrez aussi toute l'école psychanalytique de la psychosomatique qui dit « le symptôme est bête ». Il est bête. Et en fait, il est bête en sens qu'il draine simplement, mais qu'il n'a plus de signification symbolique. Donc, ne vous précipitez pas sur le sens symbolique du symptôme. Il est intéressant uniquement au début.
Et s'il évolue ?
S'il évolue, ça veut dire que ton corps a trouvé moyen de varier les plaisirs.
Mais la symbolique est maintenue?
Ah oui, la nouvelle cristallisation est intéressante, ouais. Pas l'ancienne. J'ai choisi un nouveau lieu. Ben oui, ce nouveau lieu, il est peut-être pas sans rapport avec ce que je venais de vivre. Mais c'est très rarement terme à terme, quoi. La plupart du temps, le symptôme, c'est à la fois ce qui montre le problème et ce qui le draine. Donc, toi, c'est pas si simple que ça. Il y a quelque chose à dénouer. Donc, la difficulté pour nous tous, c'est qu'une certaine rigidification de notre identité est nécessaire pour faire face aux aléas de la vie, pour faire face... faut qu'on ait quand même une certaine stabilité. C'est ce qui fait la différence entre névrotique et psychotique. J'ai une certaine stabilité. Je casse la gueule, mais je me remonte. J'ai une certaine stabilité qui est elle-même liée à un certain type de profil qui lui-même est lié à un certain nombre de frontières que j'ai posées vis-à-vis de mes super-personnalités reniées, vis-à-vis des traumas, vis-à-vis de pas mal de choses. Frontières qui me maintiennent en stabilité, mais qui en même temps me limitent et sont source de conflits. Donc à la fois, cette rigidification de notre identité est nécessaire pour faire face aux aléas, mais du coup, ça donne une tendance à l'homéostasie, c'est-à-dire que je vais toujours essayer de retomber sur mes pattes à l'intérieur de mon système. Et du coup, comme j'ai un espèce de système homéostatique qui fait que je décode les choses toujours de la même manière et que je réagis toujours de la même manière avec toujours les mêmes solutions, en réalité, notre évolution, elle a lieu par crise. Quand j'ai bien cherché sans arrêt autour d'un certain style de comportement et de façon de voir et que ça peut plus parce que ça fait vraiment pression, il y a un moment donné où je rentre dans la crise, crise personnelle, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, putain, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, crise de couple, il y en a marre, là maintenant, on ne peut plus continuer comme ça, crise, bon, il y a des tas de crises possibles. Et les crises sont nécessaires pour combattre quelque chose qui nous est naturel à tous, qui est la tendance homéostatique, c'est-à-dire à maintenir les choses à l'intérieur d'un système qui ne changera pas. Or, il faut qu'il change, parce que quand on est marié depuis 10 ans, c'est pas pareil que quand on l'était au début. Quand on a la cinquantaine, c'est pas pareil que quand on a 20 ans, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'il change. Mais comme il a un système pour empêcher de changer, et ben du coup, ça monte la pression jusqu'à ce que ça fasse péter le truc et qu'il y ait une crise. Donc, on est bâti pour fonctionner par crise. Ben, c'est comme ça. Et d'une certaine manière, la crise, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une chance. Parce que la crise, c'est la déstabilisation de l'ancien système et donc l'opportunité de créer des nouvelles règles du jeu. Par conséquent, quand les gens viendront vous consulter, ils viendront vous consulter parce qu'ils sont en crise. Ils ne viendront pas vous consulter s'il n'y a pas quelque chose qui les a déstabilisés. Ils viendront vous consulter parce qu'ils sont en crise, et ils sont en crise parce qu'ils ont essayé depuis longtemps de sortir d'un système dont ils n'arrivent pas à sortir. Souvent. Des fois, c'est parce qu'il y a eu un truc brutal. Mais... Et pour vous, il faut que vous ayez à l'esprit que, ben, tant mieux, il y a une crise, tant mieux. On va enfin pouvoir peut-être déboucher sur quelque chose qui n'était jamais possible auparavant. Donc la crise, c'est un inévitable passage. Et peut-être que, par exemple, quand vous êtes déstabilisé après la cascanide, eh ben, c'est une chance. Parce que du coup, vous allez peut-être pouvoir sortir d'un système homéostatique trop établi. Et que par contre, si vous réussissez à sortir de la cascanide indemne sans avoir du tout quelque chose qui vous ait beaucoup bousculé, eh ben, c'est dommage pour vous, parce que ça veut dire que vous avez réussi à mettre les systèmes homéostatiques en place pour ne pas bouger. Si la crise est une opportunité, ça suppose que la personne avant, elle a fait des vaines tentatives qui débouchent sur hopelessness et helplessness, la perte de l'espoir et la perte des capacités à s'en sortir. Et à ce moment-là, la personne, quand elle est en crise et qu'elle vient vous consulter, il y a une partie d'elle, c'est comme un bébé. Elle est en régression, elle est impuissante, elle est perturbée, elle ne sait plus comment faire, elle n'est plus adulte, quoi. Enfin, ses capacités d'adulte sont moins bonnes. Et bien ça, c'est ce qui va nous permettre de créer le lien basé sur un partage émotionnel. Donc ça, c'est aussi dans le manuel, je vous le rappelle, c'est qu'au tout début de notre vie, on a été un bébé débordé par les différentes choses qui nous traversaient, incapable de les gérer par nous-mêmes, c'était trop fort et trop violent. Et c'est le psychisme de l'autre, en l'occurrence de la mère, qui a vibré avec nous, ce qu'on appelle la maladie maternelle de Winnicott, c'est-à-dire carrément capable de sentir exactement ce que moi, bébé, je ressens, et qui du coup l'a intégré et a pu me le redonner détoxiqué, c'est-à-dire dire « mais oui, mon petit chou, t'inquiète pas, c'est pas grave », etc. Donc cette fonctionnalité de base de notre psychisme, c'est-à-dire d'être débordé par les émotions, par les sensations, et d'avoir quelqu'un qui est capable de vibrer avec et de les redonner d'une façon plus tranquille, c'est quelque chose qu'on retrouve chaque fois qu'on est en grosse crise. Et donc, quelque part, d'une certaine manière, votre client qui vient vous consulter, il a besoin que vous soyez sur la même longueur d'onde émotionnelle, exactement avec la même intuition que la mère qui ressent ce qui se passe pour l'enfant. D'où le fait qu'on vous propose d'être en vibration émotionnelle sur la même longueur d'onde. Et là, ça crée un lien qui a un rapport avec les bases mêmes du psychisme, avec la création du contenant psychique initial. Et donc, il est important que vous puissiez d'abord créer ce partage émotionnel, comme avec le même manque de frontières entre une mère et son bébé. Elle est capable de sentir des trucs que les autres ne sentent pas. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que les frontières de son psychisme, pour un temps, sont poreuses, quoi. Vous, à l'intérieur d'un cadre rigide et ferme, vous pouvez vous permettre pour un temps d'être avec une frontière poreuse, et en particulier un niveau émotionnel qui permettra le lien. C'est pour ça que si on n'arrive pas vraiment à créer ce lien émotionnel du départ, il y a d'assez bonnes chances pour que la suite ne puisse pas être véritablement efficace. Alors, il y a un certain nombre de passe-frontières. Moi, c'est ce que j'appelle les passe-frontières. On a des frontières, des tas de frontières, entre moi et les autres, entre le dehors et le dedans, entre mes pulsions et mes valeurs, entre mes subpersonnalités dominantes et mes subpersonnalités reniées, entre ce que je veux être et les cris de douleur qui sont planqués quelque part. On a des tas de frontières. Or, plus elles sont rigides, plus elles sont établies, plus je perds quelque chose de ma complexité, de ma richesse humaine et de ma créativité. Mais par contre, si elles étaient trop poreuses, je serais sans arrêt envahi par des tas de trucs. Donc il est important d'avoir des frontières suffisamment claires, mais en même temps d'être capable de les transpercer par moments pour passer derrière, pour voir la partie qui d'habitude est interdite d'être vue, par exemple. Eh bien, moi, je pense qu'il y a des passe-frontières et que les deux principaux qu'on utilise en thérapie, c'est l'émotion et l'image. L'émotion, c'est un passe-frontière, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un face à vous, mettons, qui est très ému dans une vraie émotion, très souvent, vous allez ressentir la même chose. C'est un peu comme si ça franchissait votre frontière personnelle et que ça vous envahissait. L'émotion, on le voit bien dans les groupes, dans les foules. Par exemple, c'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle dans les foules. Les mouvements de foule. Mouvement de panique, tout le monde panique. N'importe quoi, ils font n'importe quoi. Mouvement de colère, tout le monde va aller tuer les voisins, les Tutsis, les Hutus. Mouvement d'excitation, ben par exemple au foot, les supporters, etc. Ben, il y a quelque chose, quand on est en foule, qui transperce facilement nos propres frontières. On est porté par l'émotion. Et c'est pas si facile que ça de lutter contre. Il y a qu'à voir les films qui retracent les discours de Hitler. Avec la montée émotionnelle, il part d'un niveau de discours assez bas, et puis petit à petit, ça monte, et puis à la fin, c'est... Et on voit la foule qui suit le mouvement et qui est de plus en plus envahie par la même émotion. Donc, on a des porosités qui est due à la foule, par exemple. Mais surtout quand la foule est dans l'émotion. C'est l'émotion qui est, en fait, un passe-frontière. Donc l'émotion, par exemple, quand vous êtes avec votre patient ou ici, l'émotion peut vous permettre d'aller plus loin dans la connaissance de vous-même ou l'autre peut aller plus loin dans la connaissance de lui-même parce que ça va ramollir la frontière. Hein. Même quelqu'un qui a parié une caisse de champagne qui ne pleurerait pas, il réussit à pleurer quoi, parce qu'il accepte de laisser ramollir la frontière grâce à l'émotion partagée. D'où la nécessité en séance de l'émotionnel. L'image est un très bon passe-frontière. L'image, par exemple, les rêves, le rêve éveillé, les métaphores, ça permet d'aller plus loin que ce que le conscient veut bien se dire. Hein, c'est pas pareil quand on parle de la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, que quand on parle, vous vous prenez trop au sérieux, vous voulez faire quelque chose qui est au-dessus de vos capacités. C'est carrément pas pareil. Donc quand on passe par l'image, ça va plus loin, plus vite vers l'essentiel de nous-mêmes, vers l'autre partie qu'on ne veut pas voir. D'où le fait que, assez souvent, c'est en majuscule, pensée vidéo. As-tu pensé à faire la pensée vidéo? Oui. Pensée vidéo, pourquoi? Parce que si je vois les choses et si je les vis, c'est-à-dire que l'image est chargée d'affect, ben, il y a quelque chose qui s'inscrit en moi beaucoup plus fortement et qui fait sa trace sur laquelle je vais pouvoir ensuite m'appuyer pour changer. Autrement dit, l'émotion, l'image, création du lien très émotionnel, TBCS ou métaphore, c'est exactement les passe-frontières nécessaires. Alors il y en a d'autres qu'on n'utilise pas tellement, mais quand même, le groupe, qui est un passe-frontière intéressant, et c'est pour ça qu'on fait un travail en groupe au niveau de la case canine. Justement parce que c'est un peu la même chose que dans une foule, mais en plus intense et en plus personnel. En fait, quand on est en groupe, d'une certaine manière, on délègue un peu ses propres gestions de frontières aux règles du jeu du groupe. Et c'est pour ça que c'est à la fois la meilleure et la pire des choses, le groupe. La meilleure parce que, comme vous l'expérimentez, comme vous l'expérimenterez encore beaucoup plus dans le futur, la case canine vous permet d'aller loin dans votre propre connaissance de vous-même et dans la richesse de ce que vous pouvez découvrir. Ça, c'est le meilleur. Et le pire, c'est par exemple dans les sectes, quand quelqu'un, le gourou, va réussir à convaincre tout le monde de s'empoisonner en allant boire je ne sais quoi, ou d'aller chasser les lémuriens la nuit, enfin des trucs... bon. Et on se demande comment des gens sensés peuvent adhérer à ça. Ben, c'est l'effet du groupe. Et donc, c'est très important de bien choisir vos groupes. Et en fait, choisir le groupe dans lequel on est membre, participant, suppose de bien savoir quelles sont les valeurs de ce groupe et plus particulièrement, quelles sont les valeurs de celui qui anime le groupe. Parce que c'est ce qui change complètement. Et autant un groupe peut être d'une très grande richesse et valeur profonde, autant ça peut être une source de les bandes de tueurs ou de violeurs ou de n'importe quoi, de gangsters, sont aussi des groupes. Hein. Donc c'est aussi un passe-frontière. Et une dernière que j'ai encore pas expérimentée, mais qui pourrait peut-être être envisagée maintenant qu'on a du champagne, c'est les substances qui abaissent les défenses. Donc peut-être que désormais on fera les cascanides uniquement en étant suffisamment alcoolisé. Plus le groupe, plus la fatigue. La fatigue aussi, ça abaisse bien les défenses. Pardon ? Ah ben oui, puisqu'il y aura une libération du monde pulsionnel qui, du coup, ne sera plus contrôlé comme par les règles habituelles, etc.
C'est vrai, des fois, il y a des gens qui boivent, on les reconnaît.
Bien sûr. Bien sûr.
Mais juste, moi je m'étais interrogé justement sur ma propre analyse. Et je me
disais, ouais.
Des fois j'ai pensé me taper 3-4 cognacs avant d'y aller. Et je me suis dit non, parce qu'après il y a le risque de la voiture et de faire les bleus. Effectivement, l'alcool peut être libérateur.
Ouais. Bah, disons,
à une certaine dose.
Oui, oui. Disons, oui, non, mais c'est, t'as pas tort, hein, le LSD aussi. Hein. Mais l'inconvénient de ça, c'est que après, tu ne peux pas vraiment faire quelque chose parce qu'il y a une autre partie de toi qui dit oui, mais tu l'as vu parce que tu étais alcoolisé ou parce que tu avais pris telle drogue ou parce que si, parce que là. C'est un peu la même critique que je fais à certaines thérapies qui réussissent à faire des changements, mais dont la personne ne peut pas se les attribuer parce qu'elle dit c'est à cause de telle chose. Voilà. Donc du coup, tu as une grosse différence entre une thérapie où tu vas pouvoir t'attribuer le changement, même si c'est un peu plus lent, qu'une thérapie où tu vas dire « oui, mais c'est parce que je me suis bourré la gueule juste avant et que du coup ça a baissé mes défenses, mais si ça se trouve, ce que j'ai vu, c'était complètement farfelu, c'est parce que j'étais bourré. Hein ?» Voilà, bon, ceci dit, quand même, Timothy Leary, du temps du LSD, et d'autres, Stanislas Grof, oui, mais je parle des thérapeutes, Castaneda, c'était pas vraiment thérapeute. Stanislas Grof, par exemple, à une époque, travaillait beaucoup avec le LSD. Donc, c'est pas inenvisageable. Disons, je le fais pas, quoi. Dommage. Voilà. Bon, en gros, voilà ce que je voulais dire. Évidemment, on aurait pu détailler beaucoup plus, tout un tas de choses, mais on va en rester là.